Retrouvez 16 Gaou et ses invités dans le Club de la Presse tous les jours de lundi au vendredi à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, je suis d'accord. Mais j'ai dit pour le moment, il n'y a pas un vide quoi.
On attend et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Il est 11h. Vous comprenez sans doute que nous sommes dans l'émission Club de la Presse. Club de la Presse, vous avez rendez-vous bien évidemment avec cette émission que vous écoutez chaque jour. Et nous sommes au cinquième alors numéro de cette émission pour cette semaine. Le Club de la Presse, c'est Thomas Datevi qui est à la mise en onde. Gérard Akoucha sur la mise en ligne et je suis au micro Pascal Lossou. Club de la Presse, c'est avec nos radios partenaires, Radio Lumière à Anero, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et Radio Courtoisie au grand nord du pays. Nous sommes au Dapan. Émission Club de la Presse, c'est aussi avec nos plateformes numériques et aussi nos radios partenaires en ligne. Il y a Ibn Radio et Radio Les Bénins. Vous le savez bien, l'émission s'anime toujours avec des confrères journalistes en studio avec moi et aussi des invités. Et donc, déjà première journaliste qui est dans ce studio avec moi, c'est bien mon confrère Napokoura Francisco, j'allais dire docteur, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à nos chers auditeurs et auditrices de Canal FM La Nouvelle Génération. Et permettez-moi de vendre la mèche, de revoir mon ami Corneille Kouassi,
voilà.
À ma droite ici. La toute dernière fois qu'on était ensemble, c'était dans les monts de...
Voilà.
Dans
les montagnes.
Oui, voilà, de Kouma, où nous avions assisté à l'enterrement de la belle-mère, à notre cher confrère Michel Takpa.
Le beau-père.
Voilà.
Le beau-père.
Le beau-père de Michel Takpa de New World TV. Mm. Vraiment, il était venu spécialement de la Côte d'Ivoire pour cet enterrement où nous sommes retrouvés dans les monts. Et puis... Après, il est reparti.
Oui.
Je crois que
ça fait 9 mois.
Ça fait 9 mois
après, je reviens à Lomé. Ah, d'accord. Alors. Et comment Tampa Express se porte ce matin?
Oui, bien. Tampa Express, disons, se porte bien. Comme c'est, les acteurs sont aussi en forme.
Oui.
Sauf que vous savez, le souci financier, la crise économique, vraiment, ça. Ça part aussi par là.
Oui.
Donc, normalement, on devait être dans les kiosques aujourd'hui, mais nous avons reporté sur mardi, d'accord, où nous invitons nos lecteurs à s'emparer de ce numéro spécial, parce que nous avons quelque chose. Il y a tout à l'heure, j'écoutais le professeur Magloire et autres dans ce studio avec Dadede, et qui nous parlait de libations, d'accord. Donc, Tampa Express vous propose... L'élibation en pays Bassa.
Mmh. Voilà. Merci beaucoup, Francisco. Alors, vous avez vraiment vendu la mèche. Vous l'avez dit tout de suite. Koneï Kwasi, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Je vais bien.
D'accord. Alors, moi, je vous ai invité en tant qu'expert en règlement à l'ordre de conflit. Et donc, nous allons discuter surtout à l'ordre de la question qui est sur le continent, surtout avec cette question en Afrique de l'Ouest. Je veux parler alors du coup d'État au Niger et non seulement cela, mais aussi les derniers développements lors de ce coup d'État et tout ce qui se passe actuellement avec une probable intervention militaire de la Côte d'Ivoire, de la CEDEAO. Et donc, nous arriverons à parler alors de tout cela. Je pense que vous êtes prêts à en parler.
Oui, je suis prêt à en parler. C'est l'actualité. Nous devons débattre. Nous sommes à un banquet intellectuel. Nous croyons que nous devons mettre le doigt sur ce qui touche l'Afrique et particulièrement l'Afrique de l'Ouest.
C'est important. Alors, mais bien avant alors de parler de tous ces sujets, nous allons parler alors de la culture. Alors, il y a notre confrère, notre ami Yen Mangba qui est en studio avec moi. Yen, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous.
Comment tu vas?
Je vais très bien.
Très bien. Ouais. Alors, vous avez un programme, bien évidemment, un programme culturel. Vous êtes invité alors pour nous parler alors surtout de ce programme.
C'est un programme culturel, un programme chrétien. C'est la grande soirée de louange et d'adoration dénommée Fiala. Fiala qui est en évé, qui veut dire le roi. Donc c'est une grande soirée qui aura lieu au Palais des Congrès de Lomé le 17 septembre 2023 à partir de 15h. Donc c'est un programme organisé par la mission internationale Hôtel de Bethel qui met en lumière son groupe, sa chorale, qui est dénommé Miyab Koya. Donc Miyab Koya qui produit déjà des chansons depuis l'année passée. Donc nous sommes à la deuxième édition cette année, donc c'est ça. Fiala, la deuxième édition, nous sommes là pour l'annoncer. C'est le 17 septembre 2023 au Palais des Congrès de Lomé.
Donc, c'est alors, comment ça va se passer? Quels sont peut-être les artistes qui sont invités? Qu'est-ce qui sera fait concrètement?
Voilà, ce qui sera fait concrètement, c'est une grande soirée de louanges et d'adoration. On va adorer, on va célébrer le Seigneur et il y a quatre artistes invités. Il y a Jean Capilou qui fait partie déjà du groupe et il y a également Mao Totete. On a Collins Newman et Eric Axe. Et l'entrée, elle est libre et gratuite, mais pour ceux qui veulent avoir une place spéciale ou bien une invitation spéciale, vous pouvez réserver sur un numéro, c'est le 93 79 62 70, 93 79 62 70, parce que c'est un concert gratuit et quand c'est gratuit comme ça, il y a beaucoup de mouvements, mais si vous voulez quand même réserver une place pour venir posément vous asseoir pour suivre la soirée, composez simplement le numéro 93 79 62, 70, et vous aurez un pass spécial. On va vous expliquer toutes ces choses-là en inbox.
C'est important alors de contacter le numéro pour plus d'explications. Ouais. Et bien évidemment. Et là, si vous avez un message pour inviter surtout ceux qui sont à la maison et qui nous écoutent actuellement, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Alors, tous ceux qui sont à la maison et qui nous écoutent actuellement, préparez-vous à vivre un grand moment d'impact divin le dimanche 17 septembre. Et puis déjà, commencer déjà par adopter le concept Fiala, c'est un concept de Miyab Koya, c'est une soirée où on est là comme des princes et des princesses pour célébrer notre Dieu, notre Créateur. Donc c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit et comme je le dis, si vous voulez avoir une place importante, une place privilégiée, composez seulement le 93 79 62 70 et surtout abonnez-vous aux pages du groupe pour suivre les actualités Miyab Koya tout simplement sur toutes les plateformes.
Fiala ça veut dire quoi?
Fiala ça veut dire le roi.
Ça veut dire le roi.
Oui, le créateur du ciel et de la terre, il est le roi. Donc c'est ça.
Alors Francisco, nous sommes invités à cette rencontre d'adoration et de louange le 17 septembre prochain.
Oui, il faut sortir de nos maisons, il faut se déstresser, surtout parce que aujourd'hui, quand vous voyez les statistiques en matière de pathologies dans nos hôpitaux, c'est le stress, la tension, la pression, ça tue beaucoup. Et même quand aujourd'hui nous parlons des accidents de la route, lorsque quelqu'un n'a pas la tête bien posée, il est dans une voiture, il monte sur une moto, c'est une catastrophe. Même le piéton qui marche en philosophant est un danger pour la route. Donc le stress, le souci, c'est beaucoup. Il faut se déstresser, d'où ces genres d'événements qui permettent à vraiment se débarrasser de quelques soucis, au moins un temps soit peu.
Corneille, c'est vrai que ces événements, ce sont des événements culturels. Nous avons besoin, nous, Africains, nous avons aussi besoin alors de faire promouvoir surtout notre culture.
Tout à fait. Et c'est ce qui a fait tache d'huile dans le temps, parce que nos parents savaient sortir, savaient vraiment améliorer cette culture-là. Mais aujourd'hui, la culture africaine a foutu le camp. Nous avons une autre culture que nous voulons épouser. Comme d'habitude, nous épousons tout ce qui vient de l'Occident. Nous avons notre valeur à nous, parce que si nous n'apprécions pas, si nous ne valorisons pas notre culture, ce serait très mauvais pour nous à la longue, parce que nos enfants auront tellement de problèmes, parce qu'un peuple sans culture, c'est un peuple qui est lessivé totalement de sa personne. Et il faut vraiment aimer la culture africaine parce qu'elle est beaucoup riche.
Il faut aimer la culture africaine parce qu'elle est beaucoup riche. Yen, nous allons nous donner rendez-vous déjà le 17 septembre prochain.
Le 17 septembre à partir de 15h. Et surtout pour garder cette culture africaine, comme le dit le grand frère, c'est pour cela que la soirée est un évé. Le nom de la soirée est un évé, Fiala, tout simplement. Et puis, on invite tout le monde. Tout le monde est invité. Tout le monde trouvera sa part.
Merci beaucoup Yen. Toutefois, vous pouvez rester avec nous pour que déjà à midi, il y a nos auditeurs qui pourront vous poser des questions, surtout concernant cette manifestation que vous organisez. Alors, c'est vrai, Francisco, vous parlez tout de suite alors des accidents de la route, et depuis un temps, vous avez vu qu'il y a le casque pour le passager et qui est exigé. Quand je parle alors de passager, je parle alors des motocyclistes qui transportent alors des passagers, bien évidemment. Et le casque est exigé alors auprès des passagers. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça commence avec des verbalisations et tout. Et après, je sais quand même qu'il y aura le moment aussi où l'étape alors de sanction. Aujourd'hui, il est très important, Francisco, que chacun porte vraiment son casque.
Oui, c'est ce que vous avez dit. Le port du casque, sinon les mesures de sécurité routière ne doivent pas être facultatives. Parce que pendant longtemps, cette histoire de casque, on l'a plusieurs fois décrété, mais à un moment donné, c'était facultatif. Soit juste le conducteur, là, c'est fini, et le passager ne l'a pas. Alors que quand il tombe ou quand il y a un accident, nul n'est épargné. Et il faut aller voir aussi comment les gens se transportent sur les motos. C'est pas seulement deux passagers, une moto c'est pour deux personnes, mais vous allez voir plusieurs personnes, dont toute une famille sur une moto. Donc il y a beaucoup de ces mesures, et donc ce qu'on même on appelle le permis de conduire. D'accord, aujourd'hui, quand vous avez une moto, vous achetez une moto, on vous oblige à une assurance, mais dès lors qu'il y a sinistre, quand vous y allez, on vous réclame d'abord, disons, le permis de conduire. Quand vous ne l'avez pas, c'est fini, quoi. D'accord. Maintenant, le port du casque, on a commencé par des verbalisations, mais les gens sont allés même au-delà, un peu en abus, parce que on nous a rapporté, et ça a été vérifié, surtout depuis le carrefour de l'Union la dernière fois, où des jeunes qui viennent d'être déversés dans la rue, quand je dis des jeunes de la force de police, et qui avaient même des matraques et puis des ceintures qui frappaient des gens qui n'avaient pas porté de casque ou qui voulaient s'échapper. Et c'est des choses que nous déplorons, d'accord. Mais il faut que la mesure soit rigoureuse. Il ne faut pas que ça commence et que ça s'arrête. D'accord. On vient de commencer, on a décrété, et puis quelques temps après, il va y avoir un frottement. Maintenant, il faut aller aussi au-delà pour voir les prix des casques. parce que en quelques jours, le prix de casque a grimpé. D'accord. Ceux qui vendent les motos, est-ce que la moto, c'est une place? Non, la moto, c'est deux places. Donc, ce n'est pas seulement le conducteur qui doit viser dans la distribution des casques, c'est-à-dire les casques qui doivent accompagner les motos, mais aussi, il faut aller au-delà pour que, à l'achat de la moto, qu'on puisse avoir donné, ou bien que ça soit exigé, que ça soit deux casques donné aux acheteurs. Donc il y a beaucoup de mécanismes. On peut aussi aller jusqu'à subventionner ces casques-là pour que les gens puissent l'avoir, puisque on veut que tout le monde utilise. Je vais vous dire quelque chose qui est très étonnant. La dernière fois, j'étais à Glito. Glito, c'est quand vous arrivez à Niers, soit vous prenez quelque part là à droite. Il y a des villages, c'est très très lointain, mais quand je vois sur des routes non goudronnées, vous voyez des paysans qui ont des motos sur la tête et qui ont à moto, qui ont des casques et le casque sur la tête. Vous voyez des gens de tricycle qui viennent des fermes, qui ont le casque sur la tête. Mais dès lors que vous arrivez en ville, vous avez l'impression que ceux qui sont en ville sont inconscients pour leur vie, alors que c'est eux qui sont plutôt sur des routes asphaltées, goudronnées, sur lesquelles, lorsque la tête se pose, elle chute, il n'y a pas de pardon, c'est le sang qui coule par terre. Donc, il va falloir qu'on sente et que c'est une question d'ordre de sécurité général qui doivent s'étendre à tout le monde, même ceux qui sont à voiture. Si vous savez que par moment, vous prenez la moto, vous laissez la voiture, prenez la moto, pourquoi ne pas avoir un casque dans sa voiture? Il y a notre consoeur, j'ai oublié son nom.
Laquelle?
Asogbavi. Fifi Asogbavi. Fifi Asogbavi,
voilà.
Quand vous voyez Fifi Asogbavi, même si elle est à pied, elle a un casque sous les bras. Quand elle est en voiture, regardez dans sa voiture, le siège arrière, elle a un casque derrière. D'accord.
Et elle porte.
Mais elle porte quand elle sait que je vais aller en ZEM. Donc, elle prend sa propre précaution. Quand bien même elle a une voiture, elle prend sa propre précaution pour dire que s'il arrivait que la voiture me relâche ou si j'ai une urgence pour abandonner ma voiture quelque part, allez, je peux prendre mon casque. Ou aujourd'hui, je suis en train de sortir sans voiture, je prends mon casque, c'est sous mes bras. Dès que je monte sur moto, je mets le casque sur la tête.
Francisco, merci. Corneille, est-ce que aujourd'hui, ça ne devait pas être une question à l'ordre de civisme, mais ça devait venir de soi? Je veux bien parler alors du port de casque, par exemple. L'exemple que Francisco vient de donner sur notre consoeur qui tout le temps est avec son casque, est-ce que aujourd'hui il n'y a pas un problème de civisme et de citoyenneté surtout?
Oui, un point d'incivisme total à Lomé, et même dans les villes africaines. Parce que je ne sais pas si c'est la communication qui ne passe pas bien. Depuis un certain temps, quand j'arrive à Lomé, il y a les hommes qui brûlent le feu. Même il y a des voitures qui roulent à vive allure, là où il ne faut pas rouler à vive allure. Et tout ça là, c'est déplorable. Parce que chaque fois que je viens à Lomé et que je sors, il y a toujours un accident. Donc je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a toujours des accidents à Lomé. D'autres me disent, non, les gens qui roulent, les ZEM, ils sont quittés au village, ne maîtrisent pas le panneau de signalisation. C'est ce qui fait que ça cause tous ces accidents. Mais pour quelqu'un qui doit venir prendre un engin et qui va remorquer une autre personne, c'est-à-dire que le ZEM est comme un moyen de transport qu'on prend pour faire le commerce. Moi, je dis toujours, tout ce qui touche à la vie humaine, les autorités doivent faire très attention. Ils doivent être regardants et ils doivent avoir des mesures coercitives à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les règles. Ça, c'est pour la personne lambda qui a son ZEM ou bien qui a sa voiture. Mais l'État doit aussi faire beaucoup de choses à la fois. Vous voyez, au Carrefour, il n'y a pas de feu tricolore. Souvent, celui qui est arrêté à votre droite veut passer plus vite que l'autre, c'est-à-dire que personne ne veut attendre. Or, s'il y avait des feux tricolores, chacun allait attendre à ce que soit le feu soit vert pour partir, ou bien soit le feu soit rouge pour s'arrêter.
Mais là, ce n'est pas le cas. Chaque fois que les gens se trouvent à une intersection, chacun veut partir avant l'autre. Personne ne veut céder pour que chacun puisse partir aisément. Souvent, il faut céder une seconde pour ne pas créer de bouchon. Il faut céder deux secondes pour ne pas qu'il y ait un accident. Mais comme les gens sont pressés, ils sont obligés de partir. Donc, l'État doit faire très attention, mettre les feux tricolores. Nous savons que c'est difficile dans ce temps qui court, mais l'État doit faire beaucoup de choses parce que par moment, on peut perdre des cadres importants. Je ne dis pas que les autres qui meurent ne sont pas importants, mais on peut perdre des cadres importants qui ont vraiment donné leur vie pour cette nation ou bien qui ont beaucoup à faire pour cette nation. Donc, il faut que l'État soit regardant sur vraiment le point de sécurité routière à Lomé.
La responsabilité de l'État, c'est important. Alors, nous sommes rejoints entre-temps par Germain Pouli. Germain, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les confrères ici. Bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs du Canal FM.
Alors, nous sommes en train de discuter de la question de sécurité routière. Nous savons qu'il y a une campagne qui est en cours actuellement. Chacun doit porter alors un casque, surtout les passagers, hein, sur les motocyclistes, enfin sur les motos, j'allais dire. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas cette question plutôt alors de prise de conscience chez nous qui sommes citoyens?
Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a des associations qui sont dans la sécurité routière, qui travaillent. Il y a l'État qui a travaillé énormément. Mais le constat est toujours alarmant. C'est dans les cas d'accident, on a constaté que les motos sont plus impliquées. Et dans les cas dramatiques où il y a eu des décès ou des blessés graves, c'est souvent les passagers qui n'ont pas le casque, qui sont plus atteints, d'où l'idée donc de lancer cette campagne. Ce matin, en venant au boulot, j'ai vu qu'il y a des policiers qui faisaient un travail assez extraordinaire que j'ai apprécié du côté de l'Ebacito. Qu'est-ce qu'ils font simplement? Quand le passager n'a pas de casque, on le descend et il reste à côté des policiers là-bas un temps. Et celui qui conduit s'en va. C'était extraordinaire. Je crois que c'est la meilleure façon de communiquer. On laisse le conducteur partir.
Donc, soit avec le conducteur va payer un casque.
Vous voilà. Soit si vous avez un casque à la maison, vous l'amenez. Comme ça, vous pouvez prendre une moto. Donc, c'est vrai. Mais après, ce que le confrère disait qui est vrai, c'est que les casques aussi ne sont pas si accessibles. Au départ, on n'avait pas voulu lancer cette campagne parce que les casques n'étaient même pas assez disponibles. Il n'y avait pas assez de commerçants qui importaient les casques. Certains distributeurs de motos ont bien fait de vendre des motos avec des casques. Malheureusement, c'est avec un seul casque. Et donc, il faut en acheter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que chaque client, quelqu'un qui sait qu'il doit prendre une moto, doit faire l'effort d'acheter un casque. Moi, j'ai pris une moto ce matin. J'ai pris une moto et j'avais pas de casque. Justement, j'ai discuté avec le motocycliste et je lui dis, mais comment il fait?
Il
m'expliquait des choses. J'ai dit, non, il vaut mieux passer à l'achat du casque. Il m'a dit qu'il y a des casques de 5000 quand même, qui sont pas trop chers, hein, qu'on pourrait acheter. Après, ce n'est pas... L'État ne nous embête pas, mais l'État travaille pour nous. Et nous sommes les premiers aussi à nous plaindre quand il y a ces drames-là, surtout quand le conducteur est protégé, que celui qui est transporté généralement est entièrement exposé. Notre tête, c'est la partie la plus sensible de notre corps. Et un petit choc... Et tout est déréglé dans la tête et parfois ça conduit donc à des hémorragies internes cérébrales dans la tête et ça conduit donc à la mort. C'est des trucs qu'on ne découvre pas vite. On vous amène à l'hôpital, on se permet de vous soigner les lésions sur le corps et on oublie que la tête a pris un coup. Le temps qu'on découvre, c'est un peu tard et c'est un peu trop tard. Donc félicitations donc au ministère de la Sécurité surtout. À ces jeunes policières qui font le boulot parce qu'il y a assez de dames hein, dans le carrefour et quand elles vous arrêtent, il y a peu de contestations. Avec les hommes, c'est un peu plus facile tiraillé ou de vouloir négocier, mais vous comprenez qu'avec les jeunes policières, là, elles sont même parfois plus strictes que les hommes. Hein, quand vous êtes, quand une policière ou une gendarme vous arrête, elle vous applique la loi plus rigoureusement qu'avec les hommes. C'est à saluer, c'est-à-dire que le genre arrive dans ces métiers-là habituellement réservés aux hommes, et donc je profite pour quand même remercier ce grand travail de sensibilisation qui a été fait. J'ai assisté à une scène assez impressionnante, assez éloquente, assez symbolique aussi, et on espère que chacun fera l'effort d'avoir un casque, même si on ne l'utilise pas tout le temps, on ne sait pas quel moment on va prendre une moto et qu'on puisse le prendre. Et surtout aux élèves qui sont en vacances, aujourd'hui, qui sont sur les motos, la vie est précieuse, on les veut en bonne santé pour la rentrée prochaine, et qu'ils se protègent.
Mais Francisco, déjà avec la cherté alors de ces casques, puisque vous l'avez dit, vous l'avez évoqué tout de suite, est-ce que l'État n'a pas cette nécessité ou cette responsabilité, même d'ailleurs, de subventionner même ces casques pour que ça soit plus allégé pour les citoyens?
Oui, je le disais tantôt, on doit exiger de la part des vendeurs de motos un second casque à l'achat des motos. Okay? En second lieu, on peut subventionner, puisque souvent la cherté aussi vient parfois, disons, au niveau du dédouanement. D'accord? Donc, on peut spécialement, d'accord, et voir la possibilité d'alléger disons ce côté de dédouanement et que l'État fixe peut-être même le prix des casques, parce que la douane, en regardant même déjà les factures et puis même les services de contrôle, doivent savoir que ce casque là étant subventionné, ce type de casque, voilà à tel prix on peut le vendre. C'est des mesures qu'on peut adopter très 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 rapidement, d'accord. Donc les deux, exiger des vendeurs que désormais que ça soit deux casques et que également, une attention soit portée au niveau du dédouanement. Parce que quand on parle de subvention, c'est que l'État ne va pas aller encore débourser de l'argent pour, mais l'État peut se débarrasser ou bien de certaines taxes pour permettre à ce que la chose soit. Étant donné que c'est la même marchandise, celui qui va vendre cette marchandise autre que le prix fixé peut être poursuivi. Et voilà un casque spécifique. Maintenant, au-delà des casques, il ne suffit pas de mettre le casque sur la tête. Quand vous mettez le casque sur la tête, vous ne respectez pas le feu de route. Vous ne respectez pas le code. Vous voyez des gens qui fifolent dans la circulation. Vous les voyez, ils penchent la moto, on ne sait pas où ils vont. Donc ça aussi, vous portez le casque, vous conduisez mal. C'est un ornement, le casque. Les gens des tricycles, on en voit, c'est trop surchargé les tricycles. Quand vous voyez les gens transportés, surtout les soirs, en allant vers les zones nord de Lomé ou chose, et même les motos à trois places qui sont devenues karma, qui prennent plus de quatre personnes. Il suffit de voir la route du littoral ou d'aller sur le grand contournement. Vous allez en voir et voir de ces genres de motos qui sont surchargées. Et maintenant, les bus, les longs bus qui font Lomé, Sokodé, Lomé, Kara et autres, il va falloir une fois pour de bon peut-être commencer par plomber les moteurs de ces véhicules. C'est-à-dire que qui veut importer ce type de véhicule pour le transport interurbain doit forcément plomber le moteur. Il y a des voitures, que ce soit des services de la présidence, des voitures même de l'OTR et autres, qui sont plombées à l'achat. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait qu'il y a une certaine vitesse que vous ne pouvez pas dépasser. Quand vous approchez, la voiture même fait pipi, ne peut même pas dépasser. Parce que quand vous les voyez sur la nationale numéro 1, c'est à tombeau ouvert. Et puis, sans faute des motos, des piétons et des cyclistes qui sont de part et d'autre, des routes parfois, on les ramasse et ils partent. Et quand il y a accident, c'est des dégâts énormes. Donc, il faut penser à ça parce que ils ne sont pas du tout disciplinés. Et je peux dire, peut-être Germain peut confirmer ce que je dis, parce que ces longs bus, ces bus autocar ou bien autobus, bon, il y a une différence entre autobus, ils ne sont pas du tout disciplinés. Il faut vraiment regarder ce secteur.
Germain, vous confirmez ?
Oui, mais il n'y a pas que les bus, il y a les gros camions et les titans. Hein, vous savez que c'est des chauffeurs, moi je dis... Ils ont parfois un sentiment de supériorité sur la route. Et il y a trop de jeunes chauffeurs qui conduisent ces camions-là. Moi, je sais, quand nous, on était petits, c'est difficile de voir un chauffeur de moins de 30 ans, 35 ans conduire un Titan ou un gros camion. Mais aujourd'hui, vous voyez des gamins avec des véhicules pas possibles qui s'amusent à effrayer les autres usagers de la route. Et au point où certaines sociétés ont été amenés à mettre des numéros derrière les camions pour dire d'appeler la société au cas où ce camion est mal conduit. Et je crois que plusieurs sociétés devraient faire cela, mettre les numéros pour qu'on appelle pour signaler ces chauffeurs-là, parce que c'est terrible. C'est des camions qui font sur vous dans la circulation. La nuit, on n'en parle pas. Il y a des gens qui ont fait des accidents comme ça. Vous êtes obligé de sortir de la route pour qu'il ne vous écrase pas. Et lui s'en va. À partir du moment où il ne vous a pas ramassé, et pour lui, il n'a causé aucun accident. Mais c'est pourtant lui. C'est vraiment dramatique. Il y avait eu cette directive en temps où, à certaines heures, on avait interdit à certains types de véhicules de circuler, surtout la nuit. Mais je crois que ça a été levé. Il faut aussi peut-être penser à ramener cela, parce que la nuit, c'est très difficile de conduire sur des routes où il y a les grands camions, les titans et tout ça. Pour revenir au casque aussi, et rapidement, j'allais parler de ces femmes-là qui ont de belles coiffures et qui n'aiment pas souvent porter des casques. Donc, pour ne pas
abîmer
la beauté de la coiffure. Et puis, il y a aussi des questions hygiéniques aussi, qui font que les gens n'aiment pas utiliser les mêmes casques. Et donc, les émigrants, certains ont des casques, mais tous les clients n'acceptent pas à les utiliser parce qu'ils ne savent pas combien de têtes et dans quel état étaient ces têtes-là qui ont porté ces casques. D'où vraiment l'intérêt que chacun trouve 5 000 pour avoir un casque. Ça ne coûte qu'une dizaine de bières et les gens prennent tout ce que ça part.
Vous avez dit, j'aime pas rapport à l'hygiène. Il y a un moyen. Vous savez, il y a des femmes, les femmes dans les coiffures ont l'habitude, il y a des trucs qu'elles prennent pour couvrir la tête.
Avant d'aller prendre le bain.
En plastique, avant d'aller prendre. Oui, autant en mettre dans votre.
Pour sauver une vie,
justement, pour sauver une vie.
Un homme peut mettre ça dans la poche.
Oui.
Au moment de prendre la moto et de déposer le casque du ZEM, dépose sur la tête.
Corneille, c'est vrai que l'autre souci, il y a Francisco qui l'a évoqué entre temps. Il y a des gens qui ont même d'ailleurs le casque sur la moto, mais qui ne portent pratiquement pas ces casques. Il y a des jeunes que vous verrez alors sur les motos qui ont le casque entre leurs jambes, mais qui faufilent entre les véhicules, qui circulent librement sur la voie. Là, il y a un problème alors de prise de conscience.
Oui, il y a un problème de prise de conscience. Il y a l'incivisme total. Et je disais tout à l'heure, il va falloir que l'État soit très, très, très dur. Parce que quand vous prenez des mesures et que les gens ne respectent pas, ça veut dire que les gens vont contre l'autorité de l'État. Et comme ça, c'est pas bon. Parce que je dis, tout ce qui touche à la vie, l'État ne doit pas s'amuser avec. Tout ce qui touche à la vie, il faut que les gens comprennent bien. Tout ce qui touche à la vie, l'État ne doit pas s'amuser avec. Celui qui ne prend pas le casque, il faudrait qu'il y ait des amendes très lourdes. Vous voyez, au Bénin, les amendes de talons ne sont pas les amendes d'argent, mais c'est en prison. Il faut connaître la sociologie du peuple. Quand vous savez que le peuple a peur de faire sortir l'argent, les amendes, c'est en argent. Si vous savez que le peuple a peur de la prison, les amendes, ça doit être la prison. Aucune personne ne viendra sur un plateau de télévision ou bien sur un plateau de radio pour venir dire que le gouvernement togolais a mal fait. Si c'est pour vous sauver la vie et que vous pensez que l'État a mal fait, ça c'est à vos risques et périls. Mais il faut que l'État agisse. Germain a parlé tout à l'heure des titans qui roule n'importe comment sur les grandes voies. Normalement, les titans doivent rouler à droite parce que c'est des véhicules qui ne roulent pas rapidement. Mais ces titans ont pris le malin plaisir. C'est un peu partout en Afrique que ça soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Togo, au Bénin, au Nigeria, au Cameroun, je ne comprends pas pourquoi ces titans roulent à gauche. Soit ils défient l'État, soit ils défient les forces de l'ordre, mais souvent, les forces de l'ordre sont complices avec, avec ses chauffeurs. Parce que quand le gars roule à gauche et que l'amende doit servir de prétexte pour ne pas que ce monsieur puisse rouler encore à gauche, parce que rouler à gauche va toujours créer des accidents. Mais les gens roulent à gauche, moi je prends le cas de chez nous. Les gens roulent à gauche, souvent on leur dit de ne pas traverser soit l'autoroute qui mène depuis la grande ville d'Abidjan vers Yopougon, que Germain connaît très bien. Quand on leur dit de ne pas rouler à partir de 16h et qu'ils doivent rouler à 22h, ils préfèrent venir rouler à 16h et créer un embouteillage monstre. Parce que devant, quand la police va les prendre, ils vont sortir un billet de 2000 ou bien 1000 francs et ils s'en vont. Mais le président Alassane Ouattara a trouvé la solution. On a mis des caméras un peu partout sur les grandes voies. Tu peux faire ce que tu veux avec. Si tu veux, tu brûles le feu. Si tu veux, il faut rouler à vive allure. Si tu veux, il faut faire les accidents comme tu veux. Mais le jour que tu iras faire ta visite technique, ils vont calculer toutes les amendes. Même si c'est 10 millions, tu vas payer avant que ton véhicule ne bouge. Donc, ça fait que les gens ont pris conscience. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Abidjan, les gens font très attention. D'autres même vont vers la gendarmerie pour aller demander « Est-ce que j'ai des fautes pour que je puisse payer ?» Oui, parce que quand c'est comme ça, si tu dois 500 000 et que tu donnes 30 000, on te laisse le temps. Mais si ce n'est pas le cas, et que c'est à la visite qu'on te prend, tu seras obligé de payer toute l'amende. C'est pourquoi je dis, il va falloir que l'État togolais fasse des efforts. Nous savons que c'est difficile, mais en faisant des efforts, ça va épargner beaucoup de choses aux citoyens togolais.
En faisant des efforts, ça va épargner. Oui, rapidement, puisque nous allons
quitter le sujet. C'est un sujet très important. Ce qu'il dit pour les caméras, nous avons toujours insisté sur ce système de caméras. La caméra en Côte d'Ivoire, on avait commencé par les caméras mobiles.
Oui.
Où on peut et puis, si tu peux. Au Bénin, on utilise les caméras.
Les caméras.
Est-ce que vous voyez? Mais au Togo, on fait des réformes à mi-parcours. Vous voyez, nos plaques d'immatriculation, ce qu'il dit qui se fait en Côte d'Ivoire, c'est les plaques minéalogiques. Qui veut dire que normalement, même au poste de péage, là, quand c'est flashé, on n'a plus besoin d'une autre chose. On te sort un reçu.
Même si tu veux les vidéos, on va te sortir les vidéos et les photos.
On a saisi, on a fait toutes ces saisies-là. C'est tombé à l'eau. La réforme n'est pas allée plus loin, comme il le dit, où les caméras flashent, d'accord, et c'est centralisé. Le jour où tu vas aller, tu prends tes amendes. En Europe, quand ça se fait, vous êtes à la maison. Et puis ça tombe dans votre boîte et choses. Donc nous étions dans le processus en avance, même sur ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire nous a dépassé en la matière. Donc c'est la précision que j'avais voulu faire.
Merci beaucoup. Et nous allons quitter cette question ou ce sujet alors de sécurité routière pour parler santé. Alors des journaux sont revenus ce matin alors sur le sujet de la couverture sanitaire universelle et CSU. Alors l'évêque de la nation nous parle ce matin alors de la couverture sanitaire universelle des ouvrages sanitaires réceptionnés dans la région des savanes et Togo. Hôpital, mère, enfant, le chantier prend forme. Alors, Togo Matin qui titre aussi à la une santé de la mère et de l'enfant. Victoire Toméga Doubé admis le chef-d'œuvre en construction à Togbekopé. Couverture santé grâce à Fornia Singbe, Savane, 60 formations sanitaires réhabilitées. Francisco, aujourd'hui, il est très important que, alors pour ce qui concerne surtout la santé de la mère et enfant, il y a une formation sanitaire même d'ailleurs qui est en construction à Togbekopé. C'est ce que nous annoncent alors les journaux ce matin. Et on a besoin forcément alors de ces formations sanitaires pour faire évoluer ce que la santé mère-enfant.
Oui, vous savez, Tampa Express a largement abordé ces sujets de cas de santé. Même on en a fait un parcours de combattant quand pour admettre un patient dans nos hôpitaux, nous avons fait l'état des lieux de tout le Togo en termes de structures sanitaires. Nous avons proposé, d'accord, des solutions pour en arriver. Parce que et aujourd'hui, quand nous prenons ce qui est en train de se faire, c'est des centres périphériques, d'accord, qui se font. Donc, pour prendre en charge. Maintenant, quand ça devient un peu grave, c'est d'autres problèmes. Donc, notre ville de Lomé doit être recadrée, parce que nous l'avons dit, le CHU Tocoin, le CHU Tocoin, quel que soit ce qu'on va y faire, ça ne peut plus contenir Lomé. D'accord ? On a besoin d'un hôpital, un hôpital de référence, à l'entrée de Lomé vers Bakida. Et on en a besoin peut-être on l'avait dit autour de on avait même précisé l'ancien site de Seco BTP ou pourquoi pas au niveau de vers les Adido Gomes, c'est-à-dire là où il y a les voies d'accès, d'accord, parce que on ne va pas construire un hôpital dans un milieu où s'il faut évacuer un malade, que vous avez des problèmes. Vous avez prononcé tout à l'heure, docteur Lafia, c'est une bonne initiative, mais je vous dis que quand même l'ambulance, en termes, c'est-à-dire aux heures de pointe, et une ambulance avec tout son signalement, ses feux, ses gyrophares, tout, mais c'est difficile de frayer le passage même avec l'aide des policiers. D'accord. Donc, si vous avez un patient que vous voulez évacuer sans ambulance avec un véhicule personnel normal, vous ne pouvez pas passer pour accéder à Dr Lafia. Parce que vous avez besoin de l'urgence. D'accord. C'est les premières, disons, dispositions avant de lancer un projet de cette envergure-là. Donc, notre pays a besoin. Et dans le programme du gouvernement, même dans la feuille de route de Mme Dogbé, il y a les hôpitaux régionaux qu'ils avaient proposés. Et une première pierre a été posée par même, je crois, la même première ministre au niveau de Palimé pour un tel hôpital. Je ne sais pas si on a pu dépasser le cap de la fondation. Donc, sur tout le Togo, on en a besoin. Quand vous allez chez moi à Bassa, quand il y a, disons, il faut admettre quelqu'un à l'hôpital. D'ailleurs, l'hôpital, ce n'est qu'un seul médecin, généraliste parfois, pour toute la population. Donc, tout le monde vient vers Sokodé ou aller à Kara. Dans quelles conditions? Donc, on a besoin vraiment des centres sur tout le Togo, mais des centres avec un plateau technique. Et il faut travailler avec les praticiens, c'est-à-dire que les médecins et les spécialistes, pour qu'on arrive à guider les gens. Qu'est-ce qu'il il faut? Nous avons même visité l'hôpital de Kara, le CHU de Kara, où nous avons même démontré qu'il n'y a même pas de locaux pour des médecins, d'accord, et autres. Donc, il faut dépasser le stade des micro-projets. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, parce que ça va sauver aussi des vies, mais nous devons aller vers le top, d'accord, parce que Kara aujourd'hui, je pense, c'est un scanner privé qui est à Kara, pas public. Donc ça veut dire que même depuis Dapaon, si on a besoin de faire le scanner à quelqu'un, on doit descendre forcément et à Kara. Si on est à Takpamé, il faut venir à Lomé, d'accord. Donc, voilà des choses. Alors que ce qu'on parle aujourd'hui de scanner, ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire. C'est devenu un élément important, d'accord, dans le diagnostic des pathologies. Donc, voilà ce que nous avons. Au-delà de ces petits centres de proximité, il faut aller aussi penser à des centres de référence. À Lomé, on en essaie, au milieu et à l'extrême nord si on n'a pas beaucoup de moyens.
Connaît, c'est vrai que quand on prend nos pays africains, il y a toujours ces centres de référence sanitaires, bien évidemment. Mais au-delà, la couverture sanitaire universelle peine à rentrer dans les habitudes, ou du moins ça atteindre même tous les citoyens. Est-ce que il n'y a pas une question de priorité sanitaire?
Bon, il y a un problème de priorité sanitaire, mais il faut comprendre, quand vous parlez des maladies universelles, c'est un peu compliqué parce que on a essayé en Côte d'Ivoire. C'est maintenant que ça prend, parce que il y a beaucoup d'acteurs indirects dans la chose. Dès lors que vous parlez de cette maladie universelle qu'on appelle comment on appelle ce que vous avez
oui, la couverture sanitaire
universelle, ça touche déjà les assurances. Or les assurances, quand vous parlez d'assurance, vous touchez au lobby, vous touchez aux grandes firmes qui n'ont pas intérêt que cela soit en Afrique. Vous voyez, ça c'est ma pièce de couverture maladie universelle. Ça a commencé depuis 2019. Ça tâtonnait. Jusqu'à ce que le député Jean-Luc Billon fasse sortir sa pièce un jour et qu'il dise « ça ne sert à rien ». Mais quand un député sort et qu'il dit que ça ne sert à rien, il faut faire très attention. Parce qu'on vous dit de payer 1000 francs par mois. Mais quand vous payez les 1000 francs, vous arrivez à l'hôpital, on vous dit qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médecin pour vous soigner. Donc, ça sert à quoi? Mais aujourd'hui, c'est une obligation en Côte d'Ivoire. Même un élève à partir de la classe de CM2, si tu ne le fais pas, tu ne peux pas t'inscrire. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire la pièce d'identité. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas aller vous inscrire dans une auto-école ou bien faire tout ce qu'il y a à faire d'important. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas. Mais est-ce que c'est un calcul que les autorités ont fait pour prendre de l'argent? Parce que ça ne sert vraiment à rien, parce qu'il y a les grosses firmes qui sont au devant. C'est un obstacle pour eux. Mais nos dirigeants ne diront jamais qu'on a un obstacle pour que le peuple, ou bien ceux qui peuvent penser, puissent penser et trouver la solution. Là n'est pas le problème. On parle d'hôpital. Au lieu de construire les hôpitaux un peu partout, je crois bien que ceux qui sont là, il faut qu'ils soient équipés. Parce qu'il ne suffit pas de construire les hôpitaux, on met des milliards dedans, or ce n'est pas équipé. Pourquoi est-ce que les autorités refusent de se faire soigner dans les pays africains et ils vont en Europe? C'est parce qu'ils savent que les hôpitaux là-bas sont mieux équipés. Mais pourquoi vous ne pouvez pas équiper vos hôpitaux à vous? Pourquoi l'Ivoirien lambda ou bien l'Ivoirien au haut sommet de l'État ne peut pas venir à Lomé pour se faire soigner? Parce qu'à Lomé, on a un hôpital de référence. Ou bien, on a un hôpital de référence au Maroc. Et d'ailleurs, c'est au Maroc que les gens vont. Comment se fait-il qu'il y a des cliniques en Afrique qui sont tenues par les Africains eux-mêmes, par les Togolais, par les Ivoiriens? Ces cliniques-là sont mieux dotées que nos hôpitaux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que nous marchons sur la tête ou bien nous marchons sur le pied? Il va falloir que nos autorités comprennent quelque chose et que le peuple que vous dirigez là, le peuple ne demande pas à se mettre en rang, soit devant la présence, bien la primature pour chercher de l'argent. Mais si je n'ai pas le bitume devant ma porte et qu'on vient me faire passer le bitume, je suis sûr que maintenant je n'irai pas au garage chaque deux jours. Ou bien que je ne serai pas éclaboussé. Si avant, pour aller à l'hôpital, j'avais des problèmes et qu'il faut aller dans une clinique qui vont me prendre cher, et qu'aujourd'hui, l'hôpital de Tocouin, par exemple, Sylvanus Olympio, est doté de tout le matériel adéquat, mais vous serez adoubé par le peuple. Mais si cela n'est pas fait, vous pensez que les gens seront contents? Les gens ne seront pas contents. Je demande aux autorités africaines, je dis bien africaines, parce qu'ils sont tous même chose. Nous vivons les mêmes problèmes. Il va falloir que nos hôpitaux soient dotés, que de construire des hôpitaux un peu partout. Je ne sais pas. Si c'est pour faire la concurrence entre eux pays, je ne comprends pas. Mais je crois bien qu'il faut doter nos hôpitaux pour que les citoyens soient bien soignés et que tout le monde soit content.
Merci beaucoup, Corneille. Germain, c'est vrai que des efforts sont faits, mais il faut aller au-delà alors de ces efforts.
Oui, les efforts sont faits et sont en train d'être faits. Je pense que ce que Corneille dit sur les cas ivoiriens, c'est ce qui inspire le Togo et qui va poser moins sûrement dans l'instauration de l'assurance maladie universelle.
Donc, mais est-ce que ça ne tarde pas?
Non, ça ne tarde pas justement parce que bon, c'est vrai qu'on est contre la multiplication des centres de santé, mais le Togo a fait plutôt ce choix.
Pourquoi? Et qui ne sont pas comment,
non,
équipés.
Non, non, j'arrive, oui. Mais il faut le faire graduellement. Mmh. Aujourd'hui, vous avez les unités de soins périphériques qui sont de petits dispensaires dans les villages où il n'y en avait pas. Quand quelqu'un a un petit palu ou un truc, au lieu de faire 20 km pour qu'il aille dans un grand village se faire soigner, il faut quand même qu'il y ait une USP.
Jamais. Je ne connais
non,
pas.
Non, j'arrive.
Je ne connais pas le Togo.
Oui, je peux avancer.
On le laisse terminer. Oui.
Vas-y. Mm.
Voilà. Donc, après, il y a les hôpitaux plus grands, plus équipés, dans les grands villages, dans les villes, dans les chefs de région, puis dans les deux CHU qui sont à Kara et à Lomé, où on est tous d'accord qu'il faut les équiper. Alors, le Togo se dit, si on fait l'assurance maladie universelle, et que quelqu'un malade dans son village, il est assuré qu'il doit faire 20 km pour se faire soigner, c'est pas la peine. Donc le mieux, c'est qu'il y ait un hôpital proche de chaque malade. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne stratégie. Après, tous ces hôpitaux ne sont pas équipés de la même manière. Pour des cas plus graves, on sera obligé de quitter le village, aller vers le grand village ou la petite ville et ainsi de suite. Quand c'est trop, on peut venir à Lomé. Et quand c'est trop, s'il n'y a pas d'hôpitaux de référence, on peut aller hors du pays. Donc je crois que c'est un peu dans ce sens. Alors qu'aujourd'hui, quand même, le Togo est en train de mettre en place des hôpitaux de référence. Il y a Dr Lafia qui a des ambitions, qui est déjà actif. Et contrairement à ce que disait Francisco, je pense quand même que c'est occupé. L'hôpital est assez accessible. C'est au bord de la nationale numéro 1. On n'a pas besoin de contours pour y aller. Après, il y a d'autres hôpitaux de référence dont on ne parle pas beaucoup. La dernière fois, j'avais parlé ici de l'hôpital qui est juste à côté, l'hôpital privé. Là.
Biassa.
Mais les gens, j'avais dit qu'il y avait des occupants hôpitaux qui étaient mieux équipés que certains en Europe, et les gens étaient scandalisés. Mais c'est vrai, c'est un hôpital de référence, bien ça. Et les gens viennent de plusieurs pays se faire soigner. Et donc, il faut que les privés s'y mettent aussi. Et quand vous voyez en Europe, on dit les gens vont se faire soigner en Europe, c'est pas dans les hôpitaux publics. Hein. C'est souvent dans des hôpitaux privés. Vous avez parlé de l'hôpital Mère-Enfant, que la chef du gouvernement a allé voir l'avancement des travaux. Ça, c'est un projet de l'INAM et d'une structure privée qui veulent construire donc ces hôpitaux-là dans les 5 régions. Ouais, parce que vous savez qu'il y a un programme au Togo qui voudrait que désormais il n'y ait plus de mamans qui meurent en accouchant. Et donc il faut des structures. Donc je crois que c'est plutôt mieux démoyer le pays, d'avoir des structures partout, que les gens n'aient pas à parcourir de grandes distances. Maintenant, pour les cas plus graves, on peut sortir de sa localité, mais ça serait dommage qu'on ait un palu, qu'on ne puisse pas se soigner au village et qu'il faille faire 15 ou 20 kilomètres pour se faire soigner. Je crois que c'est ça. Et quand vous voyez pourquoi ça traîne, déjà même pour construire ces unités de soins périphériques, il faut s'entendre. Pour mettre un petit hôpital dans un village, avant l'État allait mettre. Maintenant, l'État travaille avec les communautés pour que les communautés définissent l'endroit idéal pour installer ça, pour qu'on ne dise pas, ben, parce qu'il y a tel cadre dans telle zone, on est allé construire tel hôpital, ainsi de suite. Et je crois que c'est tout ça qui fait que c'est un peu lent, mais il faut que ça arrive. Parce que si les Occidentaux, on dit qu'ils arrivent à se soigner, c'est parce qu'ils arrivent à se soigner à moindre coût. Mmh. Parce qu'il y a une assurance qui fait que quand quelqu'un est malade, l'argent des autres sert à le soigner. Mmh. Je pense que le Togo...
Merci beaucoup. Connais, vous voulez dire quelque chose?
Ce que Germain vient de dire, c'est beau. J'ai dit, si vous voyez que je parle de la Côte d'Ivoire, c'est pour que le Togo puisse faire plus que ça.
Oui, ce qui s'inspire de ça, justement.
Il ne faut pas que le Togo tombe dans cette manière de faire de nos dirigeants. Vous voyez ici, c'est un hôpital qui est derrière. Ça, c'est dans mon village. L'hôpital a été construit depuis 1975 et l'hôpital n'a jamais été équipé. Il y a quelqu'un de chez nous,
depuis 15,
un homme d'affaires qui a mis presque 300 millions la semaine passée pour équiper notre hôpital. Nous sommes à 1 kilomètre de Boaké. Mm. Boaké est la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire. Nous sommes le plus gros village de Boaké. Nous avons au moins 3 professeurs de médecine là-bas. Les médecins, on n'en compte pas. Les pharmaciens, là, il y en a plein. Mm. Mais rien. Le sous-directeur de la santé vient de chez nous. C'est mon nom principal. Il ne peut pas équiper les hôpitaux. Mais on continue de construire les hôpitaux. Ce qu'il y en a, ce qu'il y a déjà, il va falloir qu'ils soient équipés. Mm. On ne peut pas équiper un hôpital ou bien un dispensaire de village comme un hôpital de ville. Un hôpital de ville ne peut pas être équipé comme un CHR ou bien un CHU qui est dans la grande ville. Mais il doit avoir le minimum. C'est quand la pathologie dépasse le médecin ou bien le médecin n'a pas tout ce matériel pour le faire, soit dans le village ou bien soit dans la petite ville, qu'on transporte maintenant la personne dans la grande ville parce que là, on est conscient, on est sûr qu'il y a le matériel adéquat pour soigner la personne ou bien les hommes adéquats pour soigner. Mais s'il faut créer plein d'hôpitaux et ne pas les équiper, prendre quelqu'un à Gbadape, le faire venir à Kpalimé et qu'on vient trouver le même hôpital qui se trouve à Gbadape et qu'on ne trouve pas et qu'on vient à Lomé et que c'est la même chose, je ne sais pas pourquoi on a transporté la personne. C'est pourquoi je dis, il va falloir que le minimum soit fait dans les hôpitaux et qu'il y ait des suivis pour ne pas que la population togolaise meure, pour ne pas que même nos dirigeants, parce que souvent quand ils sont au pouvoir, ils pensent que ce qu'ils font est bon. Mais le jour où vous n'êtes plus ministre, le jour où vous n'êtes plus député, le jour où vous n'êtes plus DG, vous revenez dans le peuple. Et c'est les mêmes, c'est eux-mêmes qui se plaignent le plus. Parce que je suis député, je suis à la retraite, je suis ministre, je suis à la retraite, je n'arrive pas à me soigner. Au moment où tu étais ministre, souvent ministre même de la Santé, tu n'as pas pu faire quelque chose pour que le jour que tu n'es plus ministre, que tu puisses te soigner correctement. Mmh. Je demande à nos autorités de tenir compte de tout ce que j'ai dit, d'équiper les hôpitaux.
Merci beaucoup, Corneille.
Heureusement que Corneille vient, Corneille vient pas d'affaire aussi jusqu'à Palimé. Mais je dis à Germain que chez moi, à Bassa, d'accord, l'hôpital de Bassa, c'est avant les indépendances. Et je te dis déjà, avant les indépendances, il y avait un bloc opératoire moderne où les gens venaient de partout pour se faire opérer à Bassa. Aujourd'hui, vous n'avez même pas un gynécologue. D'accord? Vous n'avez pas un pédiatre. C'est ce qu'il est en train de dire. Quand vous allez prendre quelqu'un de Bangeli pour l'amener à Bassa, et qu'on dise qu'il n'y a pas de pédiatre, il faut le transporter à Sokodé. Mais ce qu'il y a à Sokodé aussi, ce n'est pas extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la même chose qu'on est en train de dire.
Connaissons notre pays. Ils ont deux choses différentes.
Oui, connaissons notre pays. Il ne suffit pas de multiplier les centres. Il faut les équiper. Quand on dit les équiper, voilà, il faut les équiper en moyens matériels et également
on va aller concrètement. Là, actuellement, cette semaine, non, j'arrive. Cette semaine, il y a eu 60 centres de santé qui ont été réhabilités dans les savanes. Quand on dit réhabiliter, on n'est pas allé faire la peinture. On a équipé ces centres-là.
En quoi?
Un minimum, c'est dans les villages là-bas. Ça veut dire que ce qu'on dit. Il faut aller à l'information. Moi, j'étais en juillet à Cara pour les Ivalans. Je suis allé faire un reportage aussi à Chute Cara. Mais j'ai vu les bâtiments vieux, tout ça, des trucs à faire. C'est vrai, c'est des réalités. Mais dans les villages, il y a beaucoup de choses à faire aussi à Chudekara. Je suis allé en juillet, j'étais là-bas, je suis allé faire des reportages, j'ai profité des Ivalans, faire un travail là-bas.
Voilà.
Alors, ce que je suis en train de dire, j'ai vu des bâtiments, je disais au directeur du CHU que j'ai eu la chance de voir. Bon, ce que je veux dire, dans les villages, on a besoin des USP. Ça, c'est la base de l'assurance maladie universelle. Là où quelqu'un, là, dans son village, quand il a un petit mal de tête, il faut qu'on puisse le soigner d'abord au village. C'est pas la peine de prendre, chercher une ambulance au village pour amener quelqu'un dans la ville voisine pour soigner son mal de tête. C'est pour ça que l'État commence par là. Ça veut pas dire qu'on veut construire des USP dans les quartiers, par exemple, à Lomé. Non.
Parce que maintenant, on essaie de rapprocher.
Merci beaucoup, Jamel.
On forme aussi le personnel.
Oui, merci,
Jamel. Il y a une politique, je crois que. Je crois que peut-être le Togo s'est inspiré de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire.
On reviendra sur le sujet. Après, on reviendra sur le sujet parce que nous avons, nous sommes déjà talonnés par le temps. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, rapidement, nous parlons alors du Niger ou de ce coup d'État que nous avons tous ensemble vu ou connu avec ces derniers développements, bien évidemment, et aussi des sanctions de la CEDEAO, de l'Union africaine, bien évidemment, à l'encontre alors du Niger. Aujourd'hui, le pays est sous sanction, bien évidemment. Mais quand on prend Francisco, quand on prend ce pays aujourd'hui, quelles sont peut-être les conséquences alors de ces sanctions sur le pays?
Sur les pays, le pays, sur le Niger, les conséquences sont énormes. Parce que déjà, on nous parle de la suspension de fourniture d'électricité que le Nigeria ne donne plus. Les frontières qui sont fermées ont des impacts non seulement sur le Niger, mais au-delà du Niger. Nous avons vu circuler, par exemple, sur les réseaux sociaux, de la tomate, igname, oignon, qui sont gâtés à la frontière. Ça veut dire que c'est les vivres, surtout ce qui concerne oignon, tomate, c'est des choses qui viennent de là, vers les pays côtiers. Mm. Mais on a l'impression que c'est le commerçant ou bien le paysan du Niger qui paie. C'est parfois, et souvent c'est le contraire. Parce que celui qui a chargé en train de venir, il y a déjà un commerçant ici à Adaolato, d'accord, qui a fait une commande et qui a même payé. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est sa cargaison, ça a quitté le pays, c'est chargé. Il a déjà donné l'avance pour le transport. Quand ça périme comme ça, ou bien ça pourrit, en fait, c'est notre commerce togolais qui est impacté. Et par conséquent, si cette personne sûrement a pris un crédit à la banque, c'est que, en même temps, il y a des impacts au niveau des finances. Maintenant, quand vous voyez le commerce international, ce qui est un peu regrettable dans ce type de sanctions, on pouvait commencer par les avertissements. Parce que quand vous prenez le commerce international, lorsque vous faites un booking pour des bateaux pour pouvoir acheminer des marchandises, on ne peut pas décider du jour au lendemain que le booking s'arrête. Ça continue. Donc, que ce soit les marchandises qui sont déjà arrivées au port, que ce soit au port de Lomé, du Nigeria, ou dans les ports du Bénin, mais ces marchandises, si elles ne sont pas périssables, mais il y a des pénalités sur ces choses-là, jusqu'au moment où parfois ces pénalités dépassent le prix des marchandises et même les conséquences sur nos ports. Au lieu que la marchandise parte, on l'entasse. Et quand vous prenez le cas du Bénin où ils ont un petit port, le port va être exploité. Donc sur toute la chaîne, il y a eu toute une chaîne de valeurs et qu'il faut décortiquer, qui sont des pertes.
Connais, au vu, au regard alors de ces conséquences dont Francisco vient de nous parler, on a aujourd'hui la nécessité, ou bien comme beaucoup d'organisations l'exigent, est-ce qu'on n'a pas cette nécessité alors de lever ces sanctions du Niger?
Je ne crois pas que les sanctions pourront être levées parce que ça ne vient pas de nos chefs d'État. Il faut qu'on soit très clair et que tout le monde comprenne que les gens vivent sous la pression. D'autres même sont là parce que il y a le Manitou qui les a placés. D'autres même sont là parce que le Manitou leur a dit que voici ce que tu dois faire. Mais dans le cas du Niger, quand vous regardez les sanctions qui ont été prises, vous pensez que ces chefs d'État qui sont africains comme nous peuvent accepter que le peuple nigérien puisse mourir? Francisco l'a dit tout à l'heure. Mais celui qui a fait sa commande de tomates depuis le Niger, qui a pris un crédit avec une banque et qu'aujourd'hui et tous ces stocks d'aliments sont stockés à la frontière et que cette dame va perdre assez d'argent, le pays va perdre assez d'argent parce qu'il y a des taxes quand même que quand le camion traverse la frontière, on paye. Mais si ça n'émeut pas nos chefs d'État, c'est parce qu'ils sont sous la pression de quelqu'un.
S'ils sont sous la pression de quelqu'un, et même les sanctions qui sont prises, est-ce que ces sanctions, c'est représentatif? Je dis non. C'est pourquoi je dis que les sanctions ne seront pas levées. Les sanctions seront levées quand les pays eux-mêmes qui ont pris ces pays, qui sont, parce que parmi ces pays, il y a d'autres qui ne sont pas des vats en guerre. Il y a d'autres aussi qui sont des vats en guerre. Quand ça va chauffer, et que le peuple va se lever, va se soulever pour faire des marches au sein de ces pays, c'est en ce moment-là qu'ils vont convoquer le Manitou pour lui dire « Mais non, on t'a dit de ne pas prendre telle décision, mais tu nous as contraints à prendre la décision, voici ce qui arrive. » Ceux qui sont en face ne sont pas des anges. Il faut qu'on comprenne que ceux qui sont en face, parce que dans une crise, il y a des acteurs directs qu'on voit. Les acteurs directs de cette crise, il y a le Niger et les 14 pays de la CEDEAO. Et il y a les acteurs indirects qui tiennent les manettes de la chose. Il y a la France, il y a les États-Unis et il y a l'Union européenne. Parce que le cas du Niger est un cas très, 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 très complexe. L'uranium sert à quoi? C'est pour produire l'électricité. Oui. Mais comment vous pouvez comprendre qu'on peut avoir la matière qui donne l'électricité et on paye l'électricité dans un autre pays, jusqu'à ce que le Nigeria dise au Niger qu'on va vous enlever l'électricité et l'électricité est enlevée. C'est pourquoi je dis que les sanctions ne seront pas levées tant que les pays qui ont mis ces sanctions en marche ne sentiront pas la nécessité d'enlever.
Jamais, aujourd'hui, il y a la population qui est sous, sous le coup alors des conséquences, de l'impact même d'ailleurs de ces sanctions, mais tel que Connell l'a dit maintenant, au-delà de tout, c'est que la levée alors de ces sanctions, ce n'est pas pour demain.
Non, les sanctions peuvent être levées à tout moment. Vous avez vu dans le cas malien, c'était la même chose. Et qui a travaillé pour que ces sanctions soient levées, c'est le président togolais. Il a fait un calcul simple. Le Togo et le Mali, à l'époque, ont des échanges estimés à 75 milliards par an. Le Mali achète pour plus de 50 milliards. Nous, on vend à peu près 5 milliards. Et il voyait que le Togo perdait 50 milliards au moins parce qu'on sanctionne le Mali. Alors, quel est l'intérêt du Togo de perdre 50 milliards parce qu'un colonel a fait un coup d'État au Mali? Donc, le président a convaincu ses pairs pour lever. C'était la même situation au Sénégal. Ils perdaient de l'argent et c'est la Guinée qui en profitait parce qu'ils avaient ouvert leur port. Donc, tous ceux qui sanctionnent aussi subissent les sanctions. Vous avez vu les sanctions contre la Russie. L'Union européenne en souffre encore aujourd'hui. Donc, ceux qui sanctionnent souffrent. Les sanctions, c'est pas, on ne les prend pas parce qu'on veut les prendre, mais on veut mettre la pression sur ceux à qui on reproche quelque chose. Donc, ce n'est pas que ceux qui prennent les sanctions sont contents. Ils perdent. Vous croyez que l'OTR aujourd'hui, quand on prend ses sanctions, l'OTR est content? Non. Ils perdent de l'argent. Le pays perd de l'argent. Mais le pays est obligé, par solidarité, d'appliquer les sanctions. C'est ça la réalité. Donc, maintenant, après, ce n'est pas quand on voit toujours les blancs derrière. Je ne suis pas d'accord parce que ces sanctions-là sont dans les tests de la CEDEAO et les appliquent. Dans le cas du Mali, ils ont exagéré un peu sur le côté Yomoua et tout ça. Et le Mali a porté plainte. Ça a été rectifié. Donc maintenant, il faut aussi que les militaires aussi au Niger fassent un effort aussi pour assouplir un peu leur position pour qu'il y ait quand même une entente avec la CEDEAO aussi. Maintenant, je crois que les sanctions, tout le monde est conscient, ça touche beaucoup plus les populations. Les militaires là-bas, ils s'en foutent, hein, ils doivent avoir de quoi vivre pleinement. Et aujourd'hui, les Nigériens souffrent, mais les Togolais qui ont des affaires au Niger aussi souffrent, exactement comme les Nigériens.
Oui, Connaît, tu dis que c'est pas parce que les Blancs sont derrière. Toi, tu penses que le président Faure peut aller prendre une sanction contre le Niger, sachant très bien qu'en prenant ces sanctions, il va perdre assez d'argent.
Non, c'est pas le président Faure qui sanctionne. C'est la CEDEAO. Je vous donne un exemple.
Un exemple. Le débat est très intéressant.
L'Union européenne a sanctionné la Russie.
Le débat est intéressant. Les auditeurs.
Le plaisir, pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Au retour dans cette émission Club de la Presse et vous comprenez sans doute que nous nous ouvrons sur vous, vous auditeurs qui êtes à la maison, bien évidemment, ou dans vos bureaux en nous écoutant. 22 21 33 114 22 21 33 114 91 36 63 75, c'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Un premier auditeur en ligne. Allô.
Hey, bonjour, Fusini.
Oui, bonjour, c'est Pascal.
Ah, c'est Pascal.
Oui.
Je salue toutes les personnes qui sont là-bas.
Voilà. Et le nom, c'est...
C'est Karim, le taximan.
Karim, voilà, le taximan. Allez-y, Karim.
Quand vous finissez votre émission, allez-y, l'hôpital de Didjoli, qui est à côté juste. Vous vérifiez dans le bâtiment CMS. Et vous vérifiez les lits qui sont là-bas. CMS. Même là où les personnels travaillent, allez-y vérifier. Même à Lomé ici, que Germain lui l'a quitté jusqu'à Cara. Non, on est à Lomé. Maintenant, j'en passe. Je vais revenir sur le ministre de la Sécurité. C'est Yak Dabaham qui fait son boulot dans ce pays. Le gars là, il sensibilise. Il sensibilise. Il fait son travail proprement. C'est un monsieur qu'on doit féliciter. On est ministre de la Jeunesse. Et la jeunesse est là qui ne veut rien faire. Le dimanche, vous allez à la plage. Il y a des boissons qui étaient rentrées dans ce pays qui s'appelle Volca. 107, 118. Et l'alcool, 18%, 22%. Et on est ministre de la jeunesse qui est là, qui ne fait rien pour cette jeunesse. Et c'est des petits frères, 18 ans, qui prennent des boissons là. Hein? Pour maîtriser des jeunes, c'est des boissons qui est versé dans ce pays. Et on prend n'importe quoi, on ne sait même pas des boissons là, sortent d'où. Des élèves, des enfants de 10 ans qui prennent cette boisson, on ne sait même pas c'est rentré ou c'est passé par où. Qu'est-ce qu'on a fait pour ce pays? Merci.
Merci beaucoup, Karim. 22-21-33-114. Allô? Allô, bonjour. Allô? 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, papa.
Votre nom?
Moi, je viens de vous dire par rapport à...
Oui, oui, le nom, c'est...
C'est Monsieur Elé.
Monsieur Elé, allez-y.
Oui. Oui, par rapport aux hôpitaux, là. Bon, il ne s'agit pas de multiplier les hôpitaux et on n'a pas le personnel. Si c'est ça, là, ce n'est pas la peine. Parce que moi, je donne un exemple. Actuellement, tu arrives à Togbele, là. On a bien construit ça maintenant, aménagé. Mais tu arrives là-bas, simple, même prendre le bon même, tu vas faire une heure du temps que ta patiente va mourir.
Que vous parlez de Dr Lafia?
Non, je parle de Togbele.
Ah, Togbele, ok.
Centre de santé.
Togbele. Or, quand vous voyez là-bas, ils ont bien aménagé. Et maintenant, la population est très beaucoup, ceux qui sont là-bas ne sont pas nombreux. Tu prends Zongo, Togbele. Tu peux nous conduire à l'Inca, c'est toujours là-bas. Mais tu arrives là-bas, peut-être surtout le week-end, tu es cuit, tu vas mourir là-bas. J'ai envoyé mon enfant là-bas de 15h jusqu'à 19h. On n'a pas eu même. C'est pas la peine, quoi. Donc, ils n'ont qu'à revoir ça. C'est pas la peine de multiplier les salles et autres là. Et puis il n'y a pas le personnel pour travailler. Donc, c'est pas la peine.
Elé, merci beaucoup.
Vous pouvez même faire un saut là-bas et je vous allez voir.
Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô?
Allô, bonjour, monsieur Pascal.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, monsieur Abdoul.
Abdoul, oui. Allez-y. Oui.
Moi, je félicite votre confrère, M. Cornet. Il a beaucoup pris les exemples sur la Côte d'Ivoire. Moi, je voulais savoir, au Togo ici, si l'État prenait l'argent qu'il a pris pour recruter tous ces policiers-là, s'il prenait cette somme-là pour acheter les caméras, ça ne serait pas mieux. Et les policiers aussi pouvaient servir dans l'agriculture. Moi, si on cultive la terre, il y a la nourriture, on mange, on est bien, le maïs n'est plus cher. C'est ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Il a investi dans l'agriculture, il a investi dans l'élevage. Et maintenant, le gouvernement vient fixer les prix. Mais si au Togo, on mise sur trop le recrutement des jeunes, ils sont là aussi, eux aussi vont manger. Donc, quand ils vont sortir maintenant, ils prennent leur argent, ils vont aller acheter le maïs cher. Est-ce que, à quoi ça a servi? Ils n'ont qu'à même aussi les lancer dans l'agriculture. Le gouvernement n'a qu'à aménager les terres cultivables. Il y a plus de 1000 hectares qui sont là comme des terres cultivables. Ils n'ont qu'à aménager ça. Ils vont nous recruter. Nous, on va faire l'agriculture. Ils vont nous payer par mois comme ils payent les policiers.
Ok. Merci beaucoup, Abdoul, pour votre proposition. 22-21-33-114.
Allô? Allô, bonjour, le plateau.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va très bien.
Le nom, c'est
J'aimerais intervenir un peu.
Oui, oui, votre nom.
Il y a un journaliste qui a parlé.
Oui, oui, s'il vous plaît, votre nom, c'est...
Je vois qu'il a parlé mal. Depuis qu'on a eu nos indépendances, on a des minéraux. Comme l'uranium, comme il a été dit. Comme la France s'est développée pour essayer de l'uranium, là, comment on fait ça pour que ça donne de l'électricité. Depuis 60 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes là à se taper. Nous sommes là à se quereller. Comment? Il faut aller à l'essentiel. C'est le vivre ensemble qui fait le développement. C'est le quereller partout en Afrique. Au Niger, là-bas, ils ont commencé à faire coup d'état. Ça fait combien d'années? Ils ne vont pas à l'essentiel. Donc, les autres pays qui sont développés actuellement, quelqu'un, même la Chine, là, ne veut pas vous transférer sa connaissance en technologie. Jamais. La Chine, là, fermée carrément. Mais si vous attendez que c'est un pays qui va vous amener leur technologie, c'est faux. Il faut investir. Ici, on a les phosphates. Quand on a les phosphates, depuis là qu'on a commencé à extraire le phosphate, est-ce qu'on a investi dans la recherche? Hein? C'est ça l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. En Afrique, on ne va pas à l'essentiel. Hein? Et si vous ne savez pas, vous avez des minéraux, vous ne savez pas comment s'y prendre. Les autres vont venir ramasser et partir. Bon, je vous remercie.
Merci beaucoup. Vous ne nous avez pas donné votre nom quand même. Alors, merci pour votre intervention. Et je pense que nous allons l'arrêter, hein, les interventions, surtout sur ce dernier auditeur. Alors, Francisco, vous avez écouté nos auditeurs. Il y a certains qui sont revenus, surtout alors sur la question sanitaire ou les hôpitaux ici au Togo et l'équipement, surtout alors de ces hôpitaux. Quelle est votre réaction par rapport aux interventions alors de nos auditeurs?
Non, cela prouve que ce que nous observons sur le terrain est réel. Aujourd'hui, personne ne peut dire, ne peut nier l'état de délabrement de nos centres hospitaliers. Et je dis, on ne pousse pas vers la performance. Vous savez, on a fait un grand mal à ce pays et surtout à Lomé, même à ce pays, lorsque on a réquisitionné le CHL Lomé commune pour en faire un centre quoi de Covid pour bon voilà. Mais ce centre, la fermeture de ce temps a beaucoup impacté sur la condition sanitaire dans le Grand Lomé. Maintenant, comme on le dit, il faut équiper les anciens centres. C'est tous ces anciens centres dont on parle là. Même l'hôpital, le CH Chukara, c'est allemand. On l'a déjà, on l'a écrit dans Tampa Express de l'année dernière. Les sites-là sont allemands. Et tout a été défini. Sauf que les gens qui ont suivi après l'indépendance se sont écartés de ce qui a été établi comme plan directeur, quoique avait besoin des aménagements. Ils sont totalement écartés. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, nous sommes toujours en train de nous rechercher. Donc, c'est très important. La sécurité. Et Yark, le ministre Yark le fait si bien. On a parlé des ministres de la jeunesse. Mais il faut voir ce que les gens boivent aujourd'hui. Regardez dans la physionomie des jeunes. L'autre qui a parlé de l'agriculture, où on recrute que des qu'on recrute que des policiers. Mais nous avons proposé, dans Tampa Express, comme ça se fait en Côte d'Ivoire, d'avoir les ouvriers agricoles. Corneille va prendre la parole. Au lieu qu'on recrute que des militaires, que des policiers, on peut recruter aussi pour les ouvriers agricoles, pour les payer à la fin du mois. Il dit qu'aujourd'hui, l'agriculture au Togo, ce ne sont que les riches qui peuvent faire l'agriculture, parce qu'ils ne comptent pas l'argent. Puisque pour mettre en valeur une terre, il faut passer d'abord un bulldozer avant que les tracteurs
ne commence pas à travailler continuellement. Mais si vous voulez demeurer sûr, vous dites que voilà, vous mécanisez là, sans mettre les choses, il n'y a que des riches qui peuvent avoir de l'espace, mais leur exploitation n'est pas accompagnée d'un modèle économique. Ils le font pour le plaisir. Le jour qu'ils quittent leur fonction, c'est fini là.
Et Conneil, c'est vrai, nos auditeurs ont réagi sur les sujets dont nous avons débattu ici sur le plateau. Quelle est votre réaction?
Bon, je réagis sur le cas du jeune homme qui a parlé de l'agriculture.
Abdoul.
Au lieu de recruter les policiers, c'est bon de recruter les policiers. Mais je crois bien que s'il y a une bonne ambiance dans un pays, c'est-à-dire que les fondamentaux de la démocratie sont pris en compte, je crois bien que cette histoire des polices, on n'en a pas besoin. C'est parce que nos autorités ont peur qu'ils veulent recruter beaucoup de jeunes dans la police. Mais qu'est-ce que la police peut apporter un soit peu dans le développement économique d'un pays?
On a besoin aussi de la sécurité.
Je ne dis pas que la sécurité n'est pas bonne. C'est pourquoi j'ai commencé d'abord en disant, s'il y a une bonne ambiance dans le pays, si tout est fait dans les règles de l'art, moi je crois bien qu'on n'a pas besoin d'assez de policiers. Entre les policiers, entre la sécurité physique et puis la sécurité sur le plan de la maladie. Aujourd'hui, on parle des hôpitaux. Les gens étaient très clairs. Allez-y dans tel centre, vous ne verrez pas de lit. Allez-y dans tel centre, il n'y aura pas de médecin. Vous comprenez? Mais personne n'a parlé de la police. Vous dites non. Allez-y s'il n'y a pas la police. Quand moi, je parcours de Lomé à Dapaon, de Dapaon à Sikansé, je vois toujours la police et je dis tous les jours que la police togolaise fait son travail. Ils sont sérieux dans ce qu'ils font. En Côte d'Ivoire, ils sont mieux payés, mais ils ne font pas leur travail comme il se doit. Mais ici, ils sont sous-payés, ils ne sont pas payés comme il se doit, mais ils font le travail qu'on leur demande. Ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Même quand tu vas à l'aéroport, c'est des gens qui sont, ils sont très très bien, ils font bien leur travail. Vous prenez la route depuis Ségamé pour aller à Anéo. Il y a des barrières, barrages, même la nuit à 22h, à 23h, à 1h du matin, mais ces gens-là sont là pour travailler pour le peuple. Donc je ne peux pas dire que employer beaucoup de policiers, ce n'est pas bon. C'est bon, mais il faut développer davantage l'agriculture qui est la base, le socle de l'économie des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il faut développer cela.
Jamais.
Bon, ce que je voulais dire, c'est bon. Entre la poule et l'œuf, qui est plus important. La sécurité, c'est la base du développement économique aussi. Les policiers ne sont pas là pour être dans le feu rouge. Il y a aujourd'hui le développement économique qui évolue avec le grand banditisme. Et il faut les policiers et les gendarmes. S'ils ne sont pas là, il y a des localités où il y a des voleurs, il n'y a même pas un poste de police ou de gendarmerie. Vous faites comment? Donc, selon les besoins, l'État recrute, et vous avez vu que ces derniers temps, il y a eu quand même quelques policiers qui ont été déversés, c'est qu'il y a des besoins. Même dans l'armée, on disait, ben, on n'a qu'à les amener à prendre des métiers. Mais aujourd'hui, on recrute parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a le terrorisme qui est là et tout ça. Mais après, il faut une armée de métiers, des gens qui fassent autre chose que les armes, en temps de paix, qui peuvent s'occuper d'autres choses, comme en Égypte. Certains, l'armée fait. Mais après, les jeunes qui parlaient d'amener les policiers dans les champs. Mais il y a plein de jeunes qui disent qu'ils sont au chômage, qu'ils ne travaillent pas. C'est eux qui doivent aller dans les champs d'abord. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, les jeunes n'ont pas de boulot. Les policiers, au moins, ils ont un boulot. Ceux qui n'ont pas de boulot doivent apprendre, ils doivent savoir que l'agriculture est vraiment pourvoyeuse de richesses. Et puis après, il y a les apps quand même qu'on a développées. L'État a mis en place certaines facilités.
Merci beaucoup, Germain. Nous sommes à la fin de cette émission. Voilà, il y a Thomas Datévi qui nous cible même d'ailleurs la fin pour cette émission. Merci, Francisco. Merci, Koné Kwasi, alors d'être passé dans cette émission.
Merci,
Germain Pouli, d'être passé aussi dans cette émission. Yann, merci à toi. Thomas Datévi a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Géraud Dakouta. Je suis Pascal Losso. On se retrouve lundi.
101.5 Canal FM.
J'ai mal, j'ai mal.